Good afternoon, ladies and gentlemen, from the cockpit speaking, on behalf of Atlantic Airways and the rest of the crew, I'd like to welcome on this flight.
Si loin, si proche, le rendez-vous des voyages.
We are now just about ready to close our doors.
Céline Develay-Mazurel, Laure Alary.
Ladies and gentlemen, the brief of the safety features of this aircraft are 8 emergency exits.
Bonjour à tous. Près de 2 ans après le début de la pandémie mondiale qui rétrécit, entame un peu plus chaque jour nos élans d'horizon et de voyage, alors que le monde d'après se fait attendre et que l'industrie du tourisme continue d'être frappée de plein fouet par les restrictions et autres mesures de quarantaine, on a décidé d'ouvrir cette année 2022 par un état des lieux du voyage, d'hier à aujourd'hui, afin de comprendre où nous en sommes et où nous allons, et aussi comment nous en sommes arrivés là. Là, dans un avion ou un bateau qui semble avoir perdu la boussole, destination inconnue ou disons incertaine, sur fond de crise climatique, économique et sanitaire. Sachant qu'en un peu plus d'un siècle, le voyage a connu de profondes mutations, accélérations aussi, jusqu'à cet temps figé, troublé, que l'on vit aujourd'hui. La pandémie actuelle nous donne cependant l'occasion de le réinventer, ce voyage, de le questionner et de l'interroger dans ses fondements, ses excès comme ses vertus, et c'est ce que nous allons faire aujourd'hui. Voyage, débarquement immédiat, c'est par ici.
Partir, c'est la première joie qu'apportent les vacances aux citadins prisonniers toute l'année de leurs tâches, de leurs soucis, des conventions. Les vacances, vol, évasion, illusion de l'aventure dont le goût demeure au fond du cœur. Retour à la nature qui se pare en cette saison de toutes les séductions.
Il y a de grandes évolutions aujourd'hui dans le monde des vacances. Moi, je crois que ce à quoi on assiste, c'est des consommateurs de plus en plus intelligents, qui savent qu'ils ont le choix. Bon, il y a aujourd'hui une offre gigantesque de toutes les formules, des formules club, des campings, des caravanning, du trekking et ainsi de suite. Des gens qui peuvent consulter des brochures, aller sur Internet et à partir de là, faire leur choix. Soit de temps en temps bronzé idiot, il faut les respecter, partir sur le sable simplement parce qu'on est fatigué, ennuyé de la vie quotidienne et de tous les jours, des gens qui ont envie de visiter, de partir. Simplement, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a une véritable industrie des vacances. C'est devenu un vrai métier et à partir de là, il faut accepter cette nouvelle donne dans ce qui est bien convenu d'appeler une industrie des vacances et du tourisme.
Je monte dans l'avion, là, Bernard, ouais.
Suite à un léger contretemps, le décollage est retardé de 15 minutes.
Ce qui est bien dans les low-cost, c'est la ponctualité de leur retard.
Est-ce que quelqu'un aurait des antidépresseurs, s'il vous plaît ?
Vous rêviez de découvrir Venise par la mer sur le pont d'un paquebot. Vous avez ce que vous attendiez, une arrivée grandiose avec une vue imprenable sur la Sérénissime. Mais ce qui va vous surprendre, c'est le comité d'accueil. Sur les quais, des Vénitiens déploient leurs banderoles. Des grands navires nous tuent. Vous découvrez alors que sur votre beau paquebot, vous n'êtes pas le bienvenu.
C'est une image inédite. Paris, ville morte, comme partout en France. Le 17 mars 2020, tout bascule, l'économie est à l'arrêt et depuis tout a changé. Quasiment tous les vols sont annulés. C'est un drame pour les compagnies aériennes. La fréquentation s'effondre de 95%. Et pas de retour à la normale prévu avant plusieurs années.
Vous protégez, restez à une distance de 2 pas des autres voyageurs.
Alors tout en respectant les distances requises et consignes sanitaires, pour nous accompagner, nous guider aujourd'hui dans notre réflexion, j'ai le plaisir d'accueillir l'anthropologue et sémiologue français spécialiste du tourisme et du voyage, Jean-Didier Urbain. Bonjour Jean-Didier Urbain.
Bonjour.
Alors comme on vient de l'entendre dans ce medley d'archives radiophoniques et télévisées, où l'on a pu notamment écouter Serge Trégano, ancien président du Club Med dans les années 90, le voyage est passé par tous les états, de l'élan à l'explosion jusqu'à l'arrêt brutal. Alors vous, Jean-Didier Urbain, ça fait au moins déjà 30 ans que vous étudiez, décryptez le tourisme. Vous êtes l'auteur de nombreux ouvrages sur le sujet, que ce soit L'idiot du voyage, Secret de voyage, L'envie du monde aussi, la plupart, paru aux éditions Payot. Et donc, avant la pandémie, vous décriviez une ère touristique, une civilisation, je vous cite, du tourisme. Alors aujourd'hui, en 2021-22 même, on se situe désormais dans quelle ère, selon vous ?
Effectivement, le Covid et la pandémie a été un gigantesque accélérateur de tendance. Donc, il y a des signes déjà qui, qui annonçaient au fond certaines mutations qui maintenant vont se confirmer évidemment, mais qui pour l'instant sont un peu enrayées justement par les mesures sanitaires qui freinent un peu tout partout, etc. Mais effectivement, comme le disait Serge Trigano tout à l'heure, le touriste est devenu intelligent. On l'a souvent traité comme justement l'idiot du voyage, l'imbécile, le crétin en vadrouille, le con Kodak, disait San Antonio. En fond, il y a une culture du voyage d'agrément qui a été intériorisée par de plus en plus de gens, qui gèrent eux-mêmes leur désir de voyage. Donc ce qui était déjà en amorce avant le confinement, c'est au fond une prise d'autonomie de plus en plus importante de l'organisation du voyage par les touristes eux-mêmes, ce qui n'est pas sans conséquence sur l'industrie même, puisque l'industrie, c'était au fond prendre en charge cette organisation par des professionnels. Or, si vous voulez, de plus en plus, le touriste intelligent dont parlait Trigano, il fait l'économie.
Il
s'émancipe, il fait l'économie de ses intermédiaires. Internet, évidemment, l'aide énormément. Il peut autoproduire, auto-organiser, réserver à 10 000 km de chez lui une voiture sans avoir sollicité le moindre service. Donc ça s'est déjà annoncé. Je dirais, il y a eu un symptôme spectaculaire, c'est la chute de Thomas Cook, un peu de temps avant la crise sanitaire, qui est le symbole même de l'effondrement d'un modèle, si vous voulez, touristique, organisé, forfaitaire, formaté, et finalement vis-à-vis duquel, de plus en plus, le touriste a l'intelligence de réagir et de prendre en conséquence des décisions, si vous voulez, qui vont vers sa propre liberté. Paul Morand disait « Voyager, c'est un acte antisocial, c'est une façon de se débarrasser à un moment de la société, même par simulacre. » Et je pense que, de plus en plus, le touriste moderne opérationnalise cette idée et cet idéal, en fait.
Et alors, justement, vous citiez Paul Morand sur le voyage. Pourquoi aujourd'hui, et même finalement depuis la nuit des temps, on voyage ? Pourquoi voyage-t-on ? Une question un peu philosophique.
Alors, si vous voulez, c'est d'abord vaste question, donc c'est pour ça qu'elle est aussi philosophique. Bon, évidemment, il y a au moins deux grandes périodes à distinguer. C'est déjà le voyage qu'on entreprend par nécessité. Donc, je veux dire que les premiers voyageurs n'étaient pas forcément des explorateurs, mais des gens qui essayaient de trouver quelque chose pour vivre ou d'échapper à quelque chose pour ne pas mourir. Donc, ça pouvait être aussi bien des fuyards, fuyant la guerre, fuyant la misère, fuyant les épidémies. Et au fond, aujourd'hui, c'est triste à dire, mais les migrants sont un petit peu l'avatar contemporain de ces premiers voyageurs, fuyant effectivement le danger de mort, cherchant autre chose que simplement survivre, mais avec un voyage qui était d'abord un voyage de survie avant même d'être un voyage expérientiel, comme on dit aujourd'hui. Donc ça, c'est la première. Et puis après, bien sûr, le voyage, il y a l'appropriation, je dirais, politique et sociale du voyage à d'autres fins, au-delà de la nécessité, qui peuvent être aussi bien des voyages, je dirais, imposés pour des raisons justicielles, je dirais la déportation, le bagne, le voyage forcé, le bannissement, imposent des voyages qui sont des voyages punitifs, en fait. Voilà. Donc on peut avoir un voyage punitif du voyage. On peut aussi avoir une utilisation disciplinaire, didactique, éducative du voyage. Et ça, c'est un peu l'origine du tourisme, pour une part en tout cas. C'est-à-dire ces gentlemen anglais qui, à la fin du XVIIIe siècle, faisaient le tour d'Europe pour parfaire leur formation, leur culture, etc. Donc avec une sorte de parcours obligé. Et nombre de gentlemen ont été ainsi entraînés dans ce rituel obligatoire.
Et cela a sonné le début du voyage d'agrément.
Voici la saison des grands roues. On dira sans doute que la généralisation de ce dépaysement annuel ou hebdomadaire est un signe des temps. Phénomène respiratoire qu'a vulgarisé le moteur individuel, il n'est pas exempt d'une certaine nostalgie naïve des choses bucoliques. L'été venu, il n'est plus de chemin campagnard au détour duquel ne s'installe un campement. Chaque semaine, des groupes s'évadent des villes, des clubs se créent pour respirer l'air pur et vivre des heures de détente qui sont la cure de désintoxication d'une semaine de grande ville. Et une race nouvelle est née, les Vespistes, race née des fins de semaine et de l'époque des vacances. Comme on comprend d'ailleurs ces jeunes gens de préférer, au bruit et aux poussières citadines, le bord d'une rivière, les prés et les bois. La route des champs, l'exode des villes, une forme de la vie moderne.
Avec cet archivina des actualités françaises de 1956, on va donc regarder dans le rétroviseur du Vespa et de l'histoire et revenir avec vous, Jean-Didier Urbain, au début du tourisme, qui n'est pas qu'un phénomène de la vie moderne, comme nous le dit cette archive. Est-ce qu'il est possible d'expliquer depuis quand, finalement, et quand le tourisme est né exactement ? Au-delà du voyage, puisque finalement l'homme voyage depuis la nuit des temps. Ça, on peut le dire.
Donc, le tourisme, effectivement, naît avec l'apparition d'un étrange personnage qui voyage pour son plaisir, au fond, pour son édification personnelle. Et bien avant même que le mot soit inventé, je dirais, un des prototypes les plus connus qui soit. Et d'ailleurs, bizarrement, peu évoqué pendant le confinement, on a préféré Pascal à Montaigne. Montaigne est vraiment le prototype, je dirais, du touriste qui voyage d'ailleurs pour les deux raisons principales à l'origine du tourisme, qui sont d'une part un acte, une exploration éducative, si vous voulez, qui permet d'apprendre le monde, et d'autre part un mobile qui est thérapeutique. Montaigne voyage pour se soigner. Donc le voyage a ces deux fonctions, à la fois développer, épanouir et soigner. Hein, donc on peut dire que dès le XVIe siècle apparaît le premier touriste, sa figure, c'est cet homme désœuvré dont les indigènes ne comprennent même pas très bien ce qu'il veut. Et ça sera comme ça jusqu'au 19e siècle, il ne faut pas se faire d'illusions. C'est-à-dire, quand on voit, par exemple, il y a une anecdote que j'aime beaucoup, c'est qui est rapportée par Flaubert dans son voyage en Bretagne. Ils arrivent dans un village près de Quimper et on leur demande ce qu'ils font là. Et ils disent qu'ils voyagent pour leur plaisir et personne ne veut les croire. Et on les soupçonne d'être des envoyés du gouvernement pour contrôler les phares, mesurer l'état des voiries, etc. etc. Donc c'est un personnage qui ne va pas de soi. Il apparaît aussi sous la forme du grand escogriffe britannique qui traverse les campagnes et dont on comprend mal la raison. Quoi. Bien comprendre quand même, se mettre dans la tête, du plus grand nombre, voyager pour son plaisir est quelque chose de complètement incongru. Pour l'homme du 19e siècle, il n'y avait que deux raisons pour voyager. C'est l'exode rural. C'est l'arrachement au terroir, l'arrachement à la terre, et puis la mobilisation pour la guerre. On partait, l'homme, et la femme n'en parlons pas, elle ne voyageait pas du tout. Et l'homme, quand l'homme voyageait, c'était en général dans des circonstances assez dramatiques. Soit il s'arrachait de sa terre natale pour trouver du travail, soit il était arraché à sa terre natale pour aller se battre et risquer sa vie.
Sachant qu'en Europe, ces Britanniques dont vous parlez, ce sont ces adeptes du Grand Tour qui faisaient un voyage circulaire en Europe, souvent vers l'Italie. Sauf que ces adeptes du Grand Tour ne se cantonnaient pas qu'aux belles villes d'Italie. Ils prenaient aussi d'assaut le littoral pour des bains de mer. Donc on a vu fleurir aussi les premiers établissements de bains de mer. Ils ont aussi exploré la montagne. Mieux, ils l'ont gravi. Extrait d'Alpinisme, la voie des cimes, un reportage de Raphaël Constant pour Si loin, si proche et diffusé sur nos ondes en juillet 2018.
On est à Chamonix, Claude Marin, entouré de glaciers, de cimes. Quand on lève la tête, on peut voir d'abord des forêts de pins et ensuite se dessiner tout en haut les cimes enneigées, de neige éternelle. Et donc Chamonix, c'est une ville qui est un petit peu construite en cuvette dans cette vallée entourée de glaciers.
Alors ce qu'on peut dire, c'est que Chamonix, c'est une vallée glaciaire. Il faut savoir que depuis l'Antiquité, on traverse ces montagnes. Des croisades sont passées par le Grand Saint-Bernard. Napoléon est passé par le Grand Saint-Bernard. Les marchands partaient du sud de l'Italie, du sud de l'Europe, pour aller dans les grandes foires au nord de l'Europe. Et puis petit à petit, on ne s'est pas contenté de traverser les Alpes, on a voulu les explorer. Et c'est de là qu'est parti le tourisme, ces Anglais notamment, qui faisaient le grand tour de l'Europe. Et ce qui était étonnant, c'est qu'ils ont fait, ils ont écrit cette découverte au pays des glacières. Et très rapidement, beaucoup de scientifiques sont venus à Chamonix pour monter et faire des recherches sur les glaciers, sur l'atmosphère. On se demandait pourquoi le ciel était bleu, donc on allait faire des expériences là-haut. Tous ces phénomènes-là ont fait que Chamonix est devenu assez vite très connu. À l'époque, on n'allait pas en montagne pour le plaisir, c'était mal vu et il fallait vraiment effectivement avoir un objectif scientifique pour vouloir aller dans ces montagnes qui étaient en plus le domaine des morts et des âmes errantes. Et ces hauts lieux, ces glaciers étaient des montagnes maudites. Maudites parce que les glaciers descendaient très bas dans la vallée. Et souvent, il y avait des avalanches, souvent, ils passaient par-dessus des villages, par-dessus des routes. Et ces hauts lieux n'étaient pas productifs, donc on n'allait pas en haute montagne.
Oh, que c'est haut le haut des montagnes, allons mollo, j'ai le mollet ramolli. Oh que c'est haut le haut des montagnes. J'en ai plein le dos, je suis vidé, je vous le dis.
Jean-Didier Aubin, ce que l'on perçoit bien dans cet extrait, c'est comment, pendant longtemps, jouir des paysages, et ici en l'occurrence ce sont les montagnes, eh ben, ça n'allait pas de soi dans nos sociétés. Mmh. La mer, comme les montagnes, on l'a entendu, étaient des lieux redoutés, hostiles. Ce qui veut dire que notre rapport à notre environnement s'est modifié, ce qui est le signe forcément aussi que le voyage est une construction sociale, culturelle. Vous avez parlé de culture de voyage. À ce moment-là, elle naît finalement, cette culture.
Absolument, absolument. Alors là, il y a deux choses à souligner. D'une part, c'est vrai que le tourisme, au fond, si décrié, est un vecteur d'esthétisation du monde qui nous entoure. Il le rend beau.
Sachant qu'on se situe au 18e, 19e
siècle. Oui, et si vous voulez, on peut remonter un petit peu avant. C'est-à-dire, j'avais travaillé avec des historiens sur les récits de pèlerinage. Il est intéressant de voir que jusqu'au 14e, 15e siècle, aucune mention n'est faite de l'environnement. Le pèlerin ne consigne que ses peurs, son angoisse de ne pas arriver à temps avant que la ville ne soit fermée le soir, les bandits, les animaux.
Il souffre aussi
et terriblement dans son corps. Et donc, il ne s'attarde pas à regarder un coucher de soleil, des neiges éternelles ou autre. Donc, il faut attendre le XVIIe siècle, avec notamment Saint-Amand comme premier poète, finalement, du paysage. Et là, l'autre aspect qu'il faudrait souligner, sans doute, c'est qu'effectivement, on doit beaucoup aux Anglais, pour ne pas dire pratiquement tout. C'est-à-dire qu'ils inventent, effectivement, la montagne en hiver, en été, la montagne thérapeutique. Je dirais que toute la Suisse fait sa réputation touristique par les sanatoriums, les premiers bains de soleil, les soins en altitude, la sylvothérapie, les bains d'altitude, etc. Et puis aussi invente le littoral thérapeutique. Je veux dire, la Côte d'Azur, quand même, se rappeler que c'est une invention des Anglais, quand même.
On pense à la promenade des Anglais, bien sûr.
Et d'ailleurs, c'est la promenade des Anglais. Vous voyez le nom des grands palaces, etc. Bon, ils ont des résonances, effectivement, britanniques à tout coup. Et de même que le ski est une invention anglaise, de même que les clubs vacances, de même que les voyages organisés, tout vient des Anglais. Et à cela, il y a une raison, quand vous me posiez tout à l'heure la question de l'origine même du tourisme. Outre son mobile, je dirais, psychologique, intellectuel, il y a un mobile sociologique. Et on peut constater qu'il y a un développement quasi mécanique du tourisme dans les pays qui s'urbanisent. Et ce n'est pas par hasard si tout part d'Angleterre, parce que l'Angleterre est le premier pays où, dans l'histoire de l'humanité, plus d'un habitant sur deux vivait dans une ville. Et ça, c'est dès 1862. En France, pour obtenir cette même proportion avec un habitant en ville pour un habitant hors la ville, il faut attendre 1932.
Et puis j'imagine aussi que ça va de pair avec la révolution industrielle,
voilà,
qui est née aussi plus tôt en Angleterre, ce voilà, qui a fait que...
Donc une urbanisation plus précoce.
Que des classes aisées aussi ont émergé, puisqu'on parle quand même, en concernant ces adeptes du Grand Tour, d'une élite aristocratique. Et en fait, cette culture, elle va s'adosser aussi à cette industrie naissante et à l'essor des moyens de transport. Je pense évidemment au chemin de fer, fin 19e, début 20e, qui va forcément devoir emmener à bon port les voyageurs, à vide de mer ou de montagne.
Et vous contribuer à la démocratisation, je crois que c'est ça qui est important, si vous voulez.
Tout à fait, et à ce sujet, je voulais vous parler, et vous avez cité ce nom, Thomas Cook, ce premier voyagiste finalement au monde.
Absolument.
Il était anglais, agence est née en 1865, et lui avait justement pour objectif de faire voyager le plus grand nombre.
Le plus grand nombre, d'abord sur le territoire national, puis il profite du développement de l'infrastructure ferroviaire pour organiser des voyages jusqu'en Italie, jusqu'en Terre Sainte. Et il fait, à la fin du 19e siècle, son premier tour du monde organisé aussi. Donc il va élargir, et d'ailleurs il parlait, lui, de tourisme, il parlait de voyage circulaire, c'est-à-dire qu'il avait bien en tête cette idée que le tourisme c'est faire un tour. Donc il a centré, je dirais, son activité industrielle sur ce genre de désir d'itinérance. Parce qu'il y a un autre désir dans le voyage, qui est le désir de déplacement, d'installation, c'est le désir de villégiature qui relève d'un tout autre, c'est pas seulement bronzé idiot comme le disait Serge Trigano tout à l'heure, c'est le plaisir de s'installer dans un lieu et d'en jouir au maximum dans l'immobilité la plus complète. C'est un autre voyage qui au fond a pour fin l'immobilité hédoniste, en bord de mer, en montagne, à la campagne, bucolique ou pastorale, tout ce que vous voulez, c'est une autre démarche.
Et donc à ce moment-là, avec les voyagistes, vous l'avez dit, la démocratisation des voyages est en marche. Et dans l'Hexagone, à l'issue des accords de Matignon de juin 1936, on fait un petit saut dans le temps, le Front populaire va lancer les Français sur la route des vacances.
En juin 1936, les travailleurs de France ont conquis 2 semaines de congés payés. Chaque été, on ferme, on part, on s'en va. la clé sous la porte, la joie dans le cœur, vers la campagne et le grand air, vers la montagne et vers la mer, vers le soleil et la santé, par le rail et par la route.
Vacances pour tous doit signifier vacances en tout lieu et en toute saison. En 1936, bien que les vacances payées aient été accordées fort tard, on a évalué à 250 000 le nombre de personnes qui ont pu en profiter. Cette année, c'est 2 ou 3 millions de voyageurs nouveaux qui vont se répandre dans toutes les régions. Quelques millions de Français, autant d'étrangers, voilà de quoi faire rêver messieurs les hôteliers. Voilà de quoi faire rêver tout le monde. Ces millions de voyageurs, il va falloir les loger et les bien loger, les nourrir et les bien nourrir, les distraire, leur donner envie de revenir ou de nous envoyer leurs amis. Autant de problèmes auxquels il y a lieu de penser dès à présent.
Dans cette archivinade 1937 du ministère des PTT, on perçoit bien, Jean-Didier Urbain, comment l'instauration de ces fameuses deux semaines de congés payés va profondément modifier le paysage français, le développement économique aussi de nos villes ou de nos vertes campagnes. À un moment où finalement le voyage n'est plus seulement une récompense, mais il est devenu un droit.
Absolument. Simplement, je voudrais pas plomber l'atmosphère, mais il y a une mythologie française autour des congés payés qui nous représente traditionnellement une France qui d'un seul coup inonde tout le territoire, qui part en short sur des vélos à travers vers la mer, etc. Les salopards en casquette, soi-disant descendus de Paris sur la Côte d'Azur, c'est une fiction. C'est une fiction. D'ailleurs, justement, 250 000, on estime à 250 000 en 36, il y a 4 à 5 millions d'ouvriers qui se retrouvent en congé. Et leur réflexe premier n'est pas de partir. Leur réflexe premier, c'est simplement de dilater leur loisir. Donc s'ils pêchent plus longtemps. S'ils ont un potager, ils entretiennent le potager plus longtemps. S'ils vont au café, ils y restent plus longtemps. Mais l'idée de voyager pour le plaisir, hein, ça a été souligné par nombre d'historiens, pas plus que d'aller au musée ou au théâtre, ne leur vient à l'esprit. C'est pour ça d'ailleurs que quelqu'un comme Léo Lagrange introduit, empruntant à l'Allemagne, les auberges de jeunesse qu'il surnomme les écoles du tourisme. Lagrange a bien compris que le tourisme n'a rien de spontané, pas plus que le bain de mer. Ça s'apprend.
Donc il faut l'inciter, d'où les colonies de vacances, etc.
Absolument. D'où, effectivement, pas confondre la cause et l'effet, je dirais. Hein, ce n'est pas parce que d'un seul coup, les gens ont envie de voyager que l'industrie hôtelière se développe ou que les visites touristiques ou la classification patrimoniale des choses se fait. C'est l'inverse. Hein, c'est l'inverse, c'est-à-dire c'est parce qu'on va effectivement éduquer une population, d'ailleurs parfois avec des intentions pas forcément très louables, je veux dire telles que le tourisme s'est développé dans l'Allemagne avant la Seconde Guerre mondiale ou dans l'Italie, c'était un formidable outil de propagande que le voyage organisait, il ne faut pas l'oublier ça. Donc effectivement les congés payés, qui d'ailleurs n'étaient pas une revendication principale en 1936, hein, avant il y avait les conventions du travail, le droit à la représentation syndicale, etc., etc., le temps de travail, c'est véritablement après la guerre que ça explose.
Justement, à partir de là, après-guerre, nos étés ne seront plus jamais les mêmes. La Nationale 7 irrigue la France de son flot de vacanciers et l'innocence et les flirts en maillot de bain sont permis. De nouveaux espaces de socialisation s'inventent et se réinventent, comme le camping ou la plage. D'ailleurs, en 1994, vous avez consacré, Jean-Didier Urbain, un ouvrage à la plage. « Cette ville sans mur », vous écrivez. Une micro-société, en fait.
Absolument. Si vous voulez, on oublie que quelqu'un qui va à la plage va non seulement pour un bain de mer, pour un bain de soleil, mais aussi pour un bain de foule. On vient vraiment s'immerger dans une sorte de convivialité perdue en ville, avec l'opacité des parois, le fait que même dans la même maison, on ne se salue plus, pourtant on est sous le même toit. On retrouve ce contact perdu, et la plage, de ce point de vue-là, est quelque chose d'assez extraordinaire. On n'y pense pas parce qu'on est tellement habitué à ce spectacle, on le veut y voir, hein, comme disait Paul Morand, là encore, qu'un entassement de poulet cuit à l'ultraviolet. En fait, la plage, c'est un lieu formidable, pas seulement pour bronzer idiot, mais pour avoir du temps à soi et aux siens. Ces petits instants d'éternité qu'on partage, comme l'a écrit Pénac à partir des photos de Doisneau, où on se retrouve, où on retisse des liens, où on en crée, où on les renforce, où on les restaure. C'est tout ça, la plage. C'est une sociabilité, un lieu de sociabilité intense qui concentre quand même, il faut le savoir, aujourd'hui, environ 35 millions de personnes entre juillet et août sur 4%
en France.
En France, rien qu'en France, sur 4% du territoire national. C'est un phénomène quand même colossal.
Mais c'est ça, justement, on peut aussi voir un parallèle avec l'évolution du tourisme, puisqu'au XXe siècle, l'homo touristicus va devenir gourmand, il va partir chercher en avion non plus seulement la lumière, mais aussi le soleil. Mm-hmm. Donc là, on assiste à l'explosion des voyages charter, low cost mm-hmm. à l'étranger pour aller bronzer en hiver. Et finalement, c'est vrai que cette explosion du tourisme, puisqu'il y a quand même des chiffres, déjà par exemple en 2019, on a dénombré 1,5 milliard de touristes internationaux, ce qui est 3 fois plus qu'en 90 et 60 fois plus qu'en 1950, sachant, comme vous l'avez dit, que la plupart de ces touristes se concentrent sur un tout petit espace. Et on se dit que finalement, c'est un peu comme à la plage, où on s'agglutine au bord de l'eau. Et la plage d'ailleurs, on va y rester encore un petit peu, Jean-Didier Urbain. Oui. On va écouter Cathy Harel qui nous y emmène. On est en 1963, époque yéyé, parfum crème solaire et farniette.
Allongé sur la plage, tout au bord du rivage, et ta main dans la mienne qui bouge à peine. Le temps passe, passe, passe. Allongé sur la plage, à compter les nuages qui là-haut se caressent et disparaissent. Le temps passe, passe, passe. Sur le sable, en sourdine, près de nous, la radio qui somnole. Sur le sable, en sourdine, près de nous, la musique s'envole. Allongé sur la plage, tout au bord du rivage, et ta main dans la mienne qui bouge à peine. Le temps passe, passe, passe. Allongé sur la plage, nous rêvions de voyage, mais finies les vacances, tout recommence. Le temps passe, 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 allongé sur la plage, allongé sur la plage.
Si loin, si proche, écoutez, vous voyagez.
Terra ferma! Nous sommes sûrement leurs premiers touristes depuis la guerre.
Honneur, pas des touristes, des voyageurs.
Oh! Quelle différence?
Un touriste, c'est une personne qui pense à rentrer à peine vient-elle d'arriver, Honneur.
Alors qu'un voyageur pourrait ne plus rentrer.
À si loin, si proche, avec l'anthropologue français, spécialiste du voyage et du tourisme, professeur émérite à l'Université Paris Descartes, Jean-Didier Urbain, on continue d'interroger le voyage pour mieux, qui sait, le réinventer. Et à l'écoute de cet extrait du film Un Théo Sarah, que l'on vient d'entendre, ça ne m'étonne pas, Jean-Didier Urbain, que vous souriez, comme vous l'avez fait, je l'ai vu même derrière votre masque. Parce que vous avez longuement écrit sur cette dualité du touriste-voyageur. Avec, on l'a entendu, cette idée que le voyageur, lui, est noble, et le touriste, bah, méprisé, conspué. Et je me demande pourquoi vous avez eu à cœur comme ça, dans votre ouvrage, notamment L'idiot du voyage, mais aussi dans toutes vos déclarations, de le défendre, ce touriste.
Alors, moi, ma défense du touriste...
Ou de le rétablir.
Oui, c'est une réhabilitation, parce que, fort heureusement, le touriste est l'émergence de cet homme curieux, quand même, sans lequel, sans doute, quantité de choses dans notre monde auraient disparu, n'auraient pas été valorisées, n'auraient pas été reconnues dans leur valeur historique, culturelle, esthétique, etc. C'est un individu qui, par sa mobilité, fait exister davantage le monde. Hein, dans sa densité, dans ses significations, ses symboliques, ses beautés. Et je trouve très injuste cette attaque, parce qu'au fond, on ne veut voir dans le tourisme une sorte de dégradation quantitative de l'archétype du voyageur en stéréotype, si vous voulez. Ce qui est faux, c'est qu'au fond, c'est la liberté la plus grande de tous les hommes que de bouger, de se libérer par le mouvement, de circuler, de rencontrer les autres hommes, ou au contraire de s'en débarrasser en se retirant. C'est une liberté universelle qui ne devrait être confisquée par aucun et qui n'a aucune raison d'être le monopole d'une classe particulièrement éclairée qui se baptise voyageur. mais qui n'est au fond très souvent que touriste elle-même.
Justement à ce sujet, je voulais citer l'écrivain Céline qui parlait à propos du voyage de petit vertige à couillon, sachant que le couillon dans l'histoire c'est bien sûr le touriste, bien et sûr. On se dit effectivement qu'il y a presque un mépris de classe.
Ah oui, c'est un mépris de classe qui va très très loin, puisque ça va même jusqu'à une sorte de négation, si vous voulez, ontologique, du touriste en tant que voyageur. Moi, personnellement, j'avais un ami, hélas, que je regrette beaucoup, qui s'appelait Jacques Meunier, écrivain voyageur, qui disait, au fond, un ethnologue n'est jamais qu'un touriste subventionné. Je crois que c'est une grande leçon d'humilité. Nous sommes tous, quelque part, les touristes que nous ne voudrions pas être, mais que nous sommes quand même. Sitôt passé le voyage par nécessité, par obligation, que sommes-nous ? Pourquoi est-ce que nous récidivons ? Alors, parfois, nous nous parlons de grands motifs. Hein, de grands motifs, justement, la science, la connaissance, le respect de l'autre, etc. etc. Mais au fond, est-ce qu'un touriste n'est pas capable de ce respect d'autrui, de la connaissance, de la découverte, etc. ? Donc, si vous voulez, c'est, bien sûr, c'est là, s'il y a vraiment une lutte de classe qui se prolonge, avec, je dirais, ce club que j'ai appelé le club des 3A, les aristocrates, les artistes et les aventuriers, qui, eux, sont les vedettes du voyage, et les autres ne sont que des figurants ou de pâles imitateurs. Et ça, c'est une vieille tradition. Donc moi, effectivement, c'est sans doute mon âme peut-être de sociologue rentré aussi, qui m'a donné envie de défendre ce voyageur mal compris. Vous ne pouviez pas, moi, quand j'ai commencé à travailler là-dessus, vous ne pouviez pas tomber sur un travail, dès qu'on évoquait le touriste, sans que ce soit en termes péjoratifs. Le touriste gâche tout, il détruit tout, il ne comprend rien, il ne respecte pas l'autre, enfin, etc., etc. Sans s'interroger davantage sur les mobiles profonds de cet homme qui a envie de voyager. Hein. Pas forcément pour découvrir, justement. On veut absolument que ce soit un bon élève, si vous voulez. Or, le voyage, c'est tout sauf être un bon élève. C'est justement un acte de liberté.
Et c'est aussi une façon d'exister.
C'est aussi, mais par définition, même exister, c'est voyager. C'est être en dehors de soi. Exister, l'étymologie même, c'est ça. Donc, vous voyez, c'est vraiment par le fait de sortir de soi, de sortir de son monde, de sortir de son village ou de sa ville, on existe véritablement, on est soi. Je crois que c'est essentiel. C'est un proverbe islandais, moi, que j'adore, que je répète dès que je peux, qui dit la chose suivante, c'est qu'un enfant qui ne sort jamais de son village devient vite un idiot. Je crois que sortir de chez soi, sortir de soi, est un acte absolument vital, non pas au sens, évidemment, de survie physique, mais psychologiquement, intellectuellement, pour être bien au monde, avec les autres, etc.
Et alors aujourd'hui, en sortant de chez lui, le voyageur a quand même de plus en plus de mal à s'extraire de la réalité, si en tout cas il le souhaitait. Et en 2018, on en avait parlé avec l'écrivain voyageur Cédric Gras à l'occasion de la parution de son livre « Les saisons du voyage ».
Jusque-là, c'est vrai que moi, jeunesse a rimé avec vivre à l'étranger, voyager à l'étranger. Alors j'étais dans une démarche peut-être égoïste d'ailleurs, mais qui était purement celle de l'appel du large, voir le monde. Et puis c'était beaucoup en relation aussi avec un effort physique, non pas que j'avais envie de me surpasser. Et puis d'abord, je n'ai pas de qualité qui soit supérieure à celle d'autres sportifs, mais j'avais besoin de ça, j'avais besoin de...
De vous mesurer aux immensités.
Un petit peu, oui, bien sûr. Oui, voilà.
Alors vous écrivez « Partout où nous passons, la bringue est finie. Nous sommes toujours arrivés après les réjouissances. Sur les décombres des fêtes, nos pères ont brûlé la chandelle par tous les bouts de la terre. Les bourlingueurs sont devenus graves, la terre est ronde. On s'est trompé d'époque, on a raté nos vies, il nous reste la poésie. »
Oui, voilà, il nous reste la poésie, ça c'est parce que moi, c'est un refuge pour moi, mais bon, c'est un peu provocateur, évidemment, ce que j'écris là, mais il y a un fond de qui est vrai. Qu'est-ce que c'est que le voyage ? C'est quelque chose qui date un peu de l'après-guerre. Il y a eu cette route des Indes, il y a eu cette génération, celle de mon père, par exemple, qui prenait sa 4L et puis qui partait vers à travers les Balkans, c'était la Yougoslavie, mais on les laissait passer. Après, il y avait la Turquie, l'Iran, l'Afghanistan, etc., jusqu'aux Indes, jusqu'au Népal. C'était un voyage assez insouciant, moi, quand je les écoute, ses pères du voyage, sur une planète qui n'avait pas encore pris conscience de tous les enjeux qui, aujourd'hui, quand même, interpellent la personne qui voyage. Et puis, je crois qu'il y avait, moins d'inquiétudes géopolitiques, moins d'inquiétudes écologiques, moins d'inquiétudes sur la question, notamment, migratoire. Énormément d'enjeux qui, aujourd'hui, font l'actualité et dont le voyageur ne peut pas s'affranchir. En allant, par exemple, faire de l'alpinisme dans les Andes ou ailleurs, on prend un avion, donc on traverse des villes avec des bidonvilles, on voit une société, avant d'arriver au pied de la montagne, on traverse des pays et on n'est pas aveugle, on regarde et donc on prend conscience de plein d'autres choses auxquelles on n'avait pas pensé avant lorsqu'on ne songeait qu'à son ascension.
Jean-Didier Urbain, à l'heure du réchauffement climatique, des crises sociales, des inégalités aussi qui rattrapent le voyageur, sans parler même de la pandémie, est-ce que vous diriez que le voyageur du 21e siècle est un voyageur inquiet ? Ce que semblait nous dire Cédric Dara.
Oui, c'est un voyageur inquiet et en même temps...
Conscient, peut-être ?
Oui, de plus en plus conscient. Ce serait plutôt le terme qui viendrait à l'esprit, plus
je
qu'inquiet.
Je vous le souffle.
Il nourrit une certaine anxiété, c'est certain, parce qu'il voit très bien que le monde qu'il traverse est un monde qui ne va pas bien. Ce monde est confronté à de nouvelles réalités démographiques, économiques, sanitaires, politiques. Effectivement, non, la guerre n'a pas disparu à jamais. Au contraire, elle renaît toujours de plus belle. Donc, effectivement, cela dit, quand vous voyez, justement, je l'évoquais tout à l'heure, la traversée de la Bretagne par Flaubert, Flaubert a une vision très sociale et il rencontre la misère et la pauvreté humaine en Bretagne à une époque où précisément la Bretagne est une sorte de Far West, même pas encore conquis, très éloigné de tout, où l'insalubrité règne, la maladie, l'éthylisme. Enfin bon, je veux dire que simplement cette conscience sociologique du voyageur a été en grandissant, c'est certain. Je dirais qu'il y a déjà maintenant une trentaine d'années, vous avez eu les guides autrement qui disaient au fond faire du tourisme, c'est aussi se tourner vers le quotidien. Voir comment les gens du cru vivent.
Qui racontaient les vies.
Voilà, et qu'on ne réduisait pas les identités. Il y a eu ce célèbre texte de Barthes dans les mythologies qui moquait le guide bleu parce qu'on réduit au fond les identités nationales et culturelles à quelques monuments marquants, quelques paysages
des
réputés.
Archétypes.
Des archétypes, voilà, voire des stéréotypes même, hein, ce qu'on a appelé la folklorisation des cultures. Bon, donc, si vous voulez, il y a une prise de conscience croissante que voyager, c'était pas seulement aller au Louvre, voir la Joconde, c'était aussi traverser la banlieue parisienne. Kerouac, par exemple, a largement sensibilisé à ce genre de réalité. Bon, l'univers du voyageur, et donc du touriste, s'est élargi. Mais c'est dans un processus qui, pour moi, est continu. C'est pas une rupture avec... Il y aurait eu un avant où l'on était relativement insouciant et un après où on est extrêmement soucieux. C'est plus compliqué que cela, quand même. Hein. C'est l'évolution, le monde change aussi. Hein, et la conscience avec.
Et la conscience avec, justement, de nos jours, à l'heure du réchauffement climatique, des voyageurs, maintenant, s'interrogent, et même déjà bien avant la pandémie, s'interrogent sur leur mobilité, ils cherchent à la concilier avec l'environnement, à réduire peut-être l'impact que cette mobilité peut avoir, à la fois sur les populations locales et sur l'environnement naturel. Et depuis la fin des années 90, il y a les voyages durables, éthiques, responsables, qui ont commencé à fleurir à petits pas. Et plus récemment, en Suède, le mouvement « We stay on the ground », soit « On reste au sol », a vu le jour. Initié par Maya Rosén, une activiste suédoise anti-aérien, ce mouvement s'est depuis répandu à travers le monde.
Personnellement, j'ai arrêté de prendre l'avion il y a 10 ans environ. Et depuis, je lutte et je cherche à comprendre comment sensibiliser les gens sur leurs vacances en avion. D'un côté, une partie de moi ne veut pas saper l'ambiance, mais de l'autre, on est en pleine crise climatique et il n'est plus possible de continuer ainsi. C'est l'année dernière que le débat autour de l'avion a commencé en Suède. Et je me suis dit, c'est le moment. Si je veux lancer cette campagne de boycott à laquelle je réfléchis depuis longtemps, il faut y aller. Donc l'année dernière, j'ai lancé la campagne 2019 sans avion. Et aujourd'hui, c'est 2020 sans avion. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on essaie de rassembler 100 000 personnes qui s'engagent à ne pas prendre l'avion l'année prochaine. Pas seulement en Suède, mais également dans plusieurs autres pays. Il ne s'agit pas de blâmer les individus, mais plutôt de montrer qu'ensemble, on peut faire la différence en faveur du climat. Et une fois que les gens réalisent qu'ils doivent modifier leur mode de vie, c'est un peu comme une révélation. Ils essaient, et c'est une bonne manière d'engager la conversation en disant « Je soutiens cette campagne et vous ?» Est-ce que vous en seriez capable ? En signant cette pétition, les gens influencent aussi leur entourage. Mais surtout, c'est un moyen d'interpeller nos politiciens.
Jean-Didier Urbain, comment est-ce que vous envisagez ces mouvements de boycott de l'aérien, l'aérien étant responsable de 2% des émissions totales de gaz à effet de serre dans le monde ? Ce qui est pour certains beaucoup, oui. Trop, et d'autres disent...
Écoutez, moi ça m'intrigue un peu. Je dois être franc, ça m'intrigue un peu. Je me demande... ce qui produit les 98% restants. J'ai l'impression, alors effectivement, il y a des excès évidents liés au transport en avion. Je veux dire, le développement des courts séjours, par exemple, c'est quelque chose qu'il faut sans doute abolir. Il faut aussi qu'à efficacité égale, un transport terrestre remplace les transports aériens, comme ça a commencé à être fait, par exemple, ne serait-ce qu'en France. Sur certaines lignes TGV, on a limité, voire annulé les transports. Mais j'ai l'impression, moi, quelque part, d'assister à une sorte de on trouve dans l'avion une sorte de bouc émissaire de toutes nos pollutions par le transport. Et on ne remet pas forcément en cause la pollution, par exemple, des tankers géants, qui polluent autant que 72 millions de voitures en une traversée.
Donc là, on parle de la circulation des biens et pas des personnes.
Exactement. Moi, je pense qu'on se trompe de cible. Je ne vois pas pourquoi les hommes devraient se priver de voyager pour que les marchandises continuent à circuler. On a des solutions pour cela. Ça s'appelle la relocalisation. On arrête effectivement d'augmenter les déportations, je dirais, d'industrie ailleurs pour augmenter les plus-values. C'est tout un système politique qui est bien sûr à revoir. Mais personnellement, bon, très
et
bien.
Et économique.
Et économique, bien sûr. Mais on n'a pas à faire vraiment de l'avion un bouc émissaire parce qu'il est toujours utile. Il y a des voyages qu'on ne pourra pas faire autrement. Sauf à disposer d'un temps. Tout le monde n'est pas Greta Thunberg, elle ne peut pas se rendre aux États-Unis en voilier. Hein, bon. Et qui voudrait aller voir un peu ailleurs de l'autre côté de l'Atlantique est bien obligé de prendre l'avion.
Et en même temps, cette remise en question, est-ce que ce n'est pas là aussi une façon de repenser nos habitudes de consommation du voyage qui sont frénétiques, impensées en fait, de les repenser justement.
Bien sûr.
Et puis d'interpeller un secteur, bien sûr, aérien en l'occurrence, qui s'est hyper libéralisé, qui a
absolument
même du mal actuellement, et nous le prouve, à se repenser face à la crise.
Tout à fait.
On a entendu parler très récemment de la compagnie aérienne Lufthansa, par exemple, qui a annoncé prévoir en 2022 18 000 vols à vide, c'est-à-dire sans aucun passager, juste pour ne pas perdre les créneaux de vol. Donc on sent bien qu'il y a quand même une nécessité de réguler le secteur et le tourisme de masse, comme on l'appelle, en particulier.
Horrible expression, d'ailleurs.
Pourquoi horrible expression ?
Tourisme de masse, moi j'ai toujours détesté ça. D'abord parce que masse, ça renvoie à l'inerte et on assimile des personnes à de la marchandise. Et masse aussi, ça permet de ne pas différencier ce qui compose cette masse, à savoir l'énorme diversité des pratiques, au fond, qu'on croit inexistantes, mais qui en fait existent bien. Chacun fait son voyage quand même d'une manière ou d'une autre. Donc ce tourisme de masse, pour moi, ce qui empêche de penser la réalité, si vous voulez. Donc, bon, alors, bien sûr, je reconnais tout à fait, je ne dis pas que l'avion est un modèle idéal de transport. Et bien sûr, il y a des excès. D'où l'importance aussi, à mon avis, de distinguer le touriste du tourisme. Le tourisme, c'est l'exploitation des rêves d'un homme qui s'appelle touriste. Mais ce n'est pas le touriste qui est responsable de cela.
C'est
l'absence de déontologie d'une industrie qui ne se pense pas ou qui ne se réforme pas.
Et alors justement, en parlant de réformes, qu'est-ce qu'elles pourraient être, ces réformes ? Comment on pourrait imaginer à l'avenir de nouvelles formes de voyage ?
On pourrait imaginer déjà, pour être très pratique, parce que maintenant il est devenu la forme dominante, les courts séjours, c'est-à-dire se rendre loin très peu de temps. C'est une sorte de fast tourisme, si vous voulez, hein, qui est au voyage ce que le fast-food est à l'alimentation, et qui est effectivement quelque chose de tout à fait condamnable. Et l'avion est l'objectif complice de ce type de dépravation, je dirais, des pratiques de voyage. Pour autant, ce n'est pas une raison pour incriminer, si vous voulez, l'avion sur toute la ligne. Hein. En plus, je pense qu'il y a certains progrès qui se feront et qu'on peut avoir un rapport non plus de concurrence entre les moyens de transport, mais de complémentarité.
Donc le développement aussi du train, on voit
bien
ça
sûr,
émerger.
Bien sûr. Vous savez que les Chinois sont en train de faire une ligne Londres-Pékin et qu'ils le feront, hein, c'est clair. Donc le transsibérien en est un exemple aussi. Bon, donc bien sûr, mais simplement on est dans un monde de concurrence. Donc un transport ne peut se penser, et depuis très longtemps, vous savez, quand le train s'est développé, les compagnies ferroviaires implantaient systématiquement leurs stations décalées par rapport aux stations de circulation dans les canaux, le canal maritime qui était important à l'époque, pour qu'il n'y ait pas de complémentarité, justement. Bon, il faut sortir de ce jeu de chat et la souris qui existe depuis très longtemps, et qui aujourd'hui, plus que jamais, apparaît dans toute son absurdité par les effets négatifs que ça génère. Donc, il faut sans doute, c'est effectivement un appel à un peu utopique, je dirais, à réformer une pensée commerciale qui est toujours une pensée de la concurrence et absolument pas de la complémentarité et de l'équilibre des moyens. Voilà. Hein.
Et pour autant, doit-on imaginer un monde sans voyage ? Est-ce possible d'ailleurs et souhaitable ? Car n'en déplaise à certains, et vous l'avez dit, le voyage demeure une façon inégalable de lire, déchiffrer le grand livre du monde, une disponibilité aussi aux autres. Et ce n'est pas le grand écrivain voyageur français Jean-Yves Loud, habitué de nos micros, qui dira le contraire.
Moi, j'ai connu des beautés fulgurantes comme l'Himalaya. J'ai eu la chance de passer 15 ans de ma vie en aller-retour avec l'Himalaya. Je sais ce que c'est qu'une... La beauté, le volcan de Fogo au Cap-Vert, c'est extraordinaire. Des lieux au Brésil comme le Piauí, où il y a les grottes. La beauté, c'est vrai que je l'ai recherchée toute ma vie parce qu'elle me permet de continuer à agir, me permet de me dire que le monde en a besoin. C'est une antidote à la violence du monde. Vous savez, j'ai toujours voyagé avec Viviane, je le répète, parce que la dimension de couple a tellement été importante pour nous dans notre vie. Viviane et moi, nous avons toujours voyagé, pas pour parler de nous. C'est pour parler des autres, en fait. Parler de notre émerveillement, de découvrir la richesse. Toutes les sociétés ont essayé de trouver des solutions à la vie et à la mort. Pourquoi on est sur Terre? Et or, toutes ces sociétés sont des robinets qui nous donnent des saveurs supplémentaires à la philosophie qu'on peut avoir. En Afrique, on dit que le vrai voyageur, c'est celui qui sait qu'il va le revenir dans son village, déposer tout ce qu'il a enrichi sur la route au pied de sa maman, qui va l'écouter et il va enrichir sa communauté. On a toujours pensé le voyage comme cela, ramener dans ma communauté ce qu'on a eu la chance de découvrir.
Allez, voyage au rivage lointain, aux rêves incertains, que c'est beau les voyages qui effacent au loin nos larmes et nos chagrins. Mon Dieu, allez voyages, comme vous fûtes sage de nous donner ces images.
Jean-Didier Urbain, en conclusion, que vous inspirent ces mots de Jean-Yves Loud ? Je vous voyais acquiescer.
Oui, bah écoutez, je pense qu'effectivement, un voyageur, c'est toujours quelqu'un qui revient. Contrairement à ce que j'ai entendu dans le Thé au Sahara, à partir du moment où on ne revient plus, on n'est plus voyageur. On cesse, on est un migrant, on a tout ce qu'on veut, mais on n'est pas un voyageur. Et c'est vrai que c'est dans le retour que se fait l'essentiel, parce qu'au fond, ne pas oublier qu'un des plus grands... monument de la littérature de voyage, c'est l'Odyssée, et que l'Odyssée, c'est une histoire de retour.
Compliqué, mais...
Compliqué, retour compliqué, avec beaucoup d'obstacles. Mais je pense que c'est effectivement, parce que quelque part, voyager, c'est disparaître, c'est mourir, c'est renaître ailleurs, puis mourir à nouveau ailleurs pour renaître chez soi. C'est une expérience, au fond. On apprend à vivre et à mourir dans le voyage, par le voyage. Non seulement le voyage nous permet de prendre conscience de la diversité de culture. Ce qu'aucun écran, aucun film ne pourra nous apprendre et nous faire ressentir, rien ne vaut l'expérience de rencontrer l'autre. Quand l'autre, par exemple, se met à rire en vous voyant, vous vous dites, tiens, pourquoi est-ce que je le fais rire? Je suis l'autre de l'autre, toujours. Hein, et j'ai beaucoup aimé cette Perret qui dit un petit peu quelque chose comme ça dans l'espèce d'espace. Il dit, au fond, on dit toujours que Christophe Colomb a découvert les Indiens, mais on oublie que les Indiens ont découvert Christophe Colomb. Le voyage naît de cette interaction.
C'est une relation.
C'est une relation, absolument. Mais que ce soit avec des autres hommes, que ce soit avec le vide. Je veux dire, le voyage mystique, c'est la rencontre avec Dieu, quand même, face à l'immensité du monde. Donc ça, c'est des interactions qui ne passent pas par les écrans, qui ne passent même pas par les livres, qui passent vraiment par une implication physique de soi, ce que disait déjà Montaigne. Toujours prêt à être le cul en selle, parce que ça, c'est irremplaçable. C'est irremplaçable. Donc, effectivement, le voyage, si notre humanité en venait à ne plus voyager, je pense que ce serait quelque chose d'absolument terrible, de mortifère. Hein. Parce que la prise de conscience du monde, la conscience d'être au monde, passe par le voyage automatiquement.
Donc, il faut voyager encore ?
Ah oui, je ne peux pas adhérer à un autre horizon que celui-là.
Je suis d'accord avec vous. Merci beaucoup Jean-Didier Urbain.
C'est moi.
Merci aussi à Lina et à la Sonothèque de RFI pour leurs archives. Et sur la page de notre émission Si loin, si proche, sur notre site rfi.fr, vous retrouverez, chers auditeurs, les références des nombreux ouvrages de Jean-Didier Urbain. Céline Develay-Mazurel, Laure Allary, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour de nouveaux voyages. Et d'ici là, prenez soin de vous. La marche.